Je suis dans le chapitre 2 du livre du Lévitique et le texte explique dans tous les détails comment offrandes et sacrifices devaient être présentés à l'Éternel. Les cérémonies prescrites et tout le rituel lourd qui régit presque toutes les facettes de la vie des Israélites sont des instruments pédagogiques. L'Éternel veut ainsi amener chaque homme à réaliser sa culpabilité devant lui et à revenir sur soi, c'est-à-dire se repentir et à saisir, accepter la planche de salut qu'il lui propose. Aux Israélites, c'était le système encombrant de la loi de Moïse avec ses innombrables prescriptions. À moi aujourd'hui, Dieu m'offre la vie éternelle par le biais de la foi en la personne et œuvre du Christ. Voilà, c'est tout simple quand on y réfléchit. Pour revenir au levain et au miel dont il a été question, il était possible d'en offrir à l'Éternel dans la mesure où il faisait partie des ingrédients qui entraient dans la composition des pâtisseries et autres mets. Ainsi, les premiers pains cuits avec les prémices des premières récoltes contenaient du levain. On les offrait à l'Éternel lors de la fête de Pentecôte. Mais bien qu'offertes à l'Éternel, ces offrandes revenaient aux prêtres sacrificateurs qui, eux, les mangeaient. Tout ce que Dieu demandait, c'est que ces substances interdites ne lui soient pas offertes sur l'autel et donc brûlées. À l'état brut, elles étaient impures à ses yeux. Je continue le texte du chapitre 2. « On salera toute offrande qu'on apportera. On n'omettra jamais de mettre du sel » qui représente l'alliance conclue par ton Dieu. Verset 13. Contrairement au levain, qui altère les substances, le sel les conserve et empêche la corruption. Il est par là même un symbole de fidélité et de persévérance. À cette époque, on partageait le sel avec l'hôte que l'on recevait. Il symbolise le lien de solidarité qui désormais les unissait. C'est pourquoi de toute antiquité, en Orient, comme aujourd'hui encore chez les Arabes, le sel a été et est employé dans les cérémonies qui accompagnent la conclusion d'une alliance. L'expression « alliance de sel » signifie qu'elle est inviolable comme le sel qui est physiquement indestructible. C'est un produit de composition chimique très stable. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 2. Si on apporte à l'Éternel une offrande des premiers épis de la moisson, on présentera des grains qu'on aura broyés après avoir grillé les épis au feu pour cette offrande. Vous y verserez de l'huile et vous mettrez de l'encens dessus. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme mémorial une partie du grain et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu pour être offerte à l'Éternel. Versets 14 à 16. Comme les premiers-nés, les premiers produits de la terre, appelés les prémices, appartiennent à Dieu. Ici, comme souvent, la partie représente le tout. Il va de soi que le reste, ce qui n'est pas brûlé, était consommé par les prêtres. Il fallait bien qu'ils vivent. Les épis grillés et broyés était une nourriture très appréciée des Orientaux. Une fois rôtis, ils étaient froissés, puis grossièrement moulus, et c'était sous cette forme qu'on les offrait à l'Éternel, parce que c'était ainsi qu'on les mangeait. Toutes ces offrandes réglementées faisaient partie de la nourriture habituelle, journalière du peuple, et en rapport avec leur façon courante de les préparer. Ces sacrifices manifestaient les sentiments de reconnaissance de l'Israélite qui éprouvait le besoin de rendre hommage à l'Éternel avec le meilleur de ses aliments et sous la forme dont il s'en nourrissait lui-même. Il faisait ainsi en quelque sorte de l'Éternel son hôte qui, de son côté, acceptait l'offrande qui lui était faite, mais il en attribuait la majeure partie à ses serviteurs, c'est-à-dire les prêtres sacrificateurs. En résumé, ces offrandes, qui étaient des dons volontaires, étaient toujours constituées de fleurs de farine, c'est-à-dire le meilleur de ce qu'il y avait de disponible. Cela fait penser à Dieu qui, en donnant son Fils au monde, a lui aussi partager avec la race humaine ce qu'il avait de mieux. L'huile rappelle le Saint-Esprit. L'encens est la bonne odeur de la vie terrestre du Christ. Le sel est un signe d'alliance. L'absence de miel et de levain indique que le Christ n'était ni mondain ni profane, mais saint et consacré à Dieu son Père. En comparant la relation d'Israël avec l'Éternel et avec ce qui se passait dans la région du croissant fertile et au Proche-Orient ancien, on peut à première vue penser que ces offrandes sont l'équivalent du tribut du peuple vassal à son suzerain. Mais le texte indique qu'une petite partie de ces offrandes est consumée, son rôle étant d'apaiser la colère de Dieu envers l'offrand, ce qui souligne sa valeur expiatoire, c'est-à-dire couvrir les offenses de l'adorateur. Lorsque Jésus s'est offert lui-même pour expier les fautes de tous ceux qui croiraient en lui, il accomplissait ainsi la fonction de l'offrande. Voilà ce que dit un texte du Nouveau Testament à ce sujet. Les grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Jésus-Christ n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Fin de citation. Nous voici arrivés au chapitre 3 du Lévitique qui va développer les sacrifices dits d'action de grâce. Ils ne sont pas obligatoires comme les holocaustes ou d'autres qui sont décrits plus loin. Ils sont offerts par ceux qui sont en paix avec Dieu et dans le but de communier avec lui et lors de la fête de la Pentecôte. L'Israélite désire simplement s'approcher de son Dieu avec qui il veut une relation personnelle. Un petit passage du Nouveau Testament illustre cette offrande dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Je le cite. « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. » Fin de citation. Il y a trois sortes de sacrifices d'action de grâce. Premièrement, celui de la reconnaissance qui est offert pour une bénédiction inespérée ou une délivrance que Dieu a accordée. Deuxièmement, le sacrifice d'acquittement suite à l'exaucement d'une demande accompagnée d'un vœu. Et troisièmement, celui de l'offrande volontaire tout court qui exprime l'affection de l'adorateur pour Dieu à cause de ses bienfaits en général, sans rapport avec une bénédiction spécifique. Ces offrandes d'action de grâce sont possibles parce que la paix et la réconciliation entre l'Éternel et l'Israélite ont été préalablement scellées par des sacrifices sanglants obligatoires, ou dans le Nouveau Testament, par la croix du Christ, et que l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, définit ainsi, je le cite, « Dieu a voulu, par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Fin de citation. Dans la Nouvelle Alliance, où nous sommes aujourd'hui, il y a également deux sortes de paix. Celle de la réconciliation dont je viens de parler en citant le passage de l'apôtre Paul et celle de la communion dont parlait Jésus à ses disciples lorsqu'il leur a expressément dit, et je le cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Fin de citation. Il y a donc deux sortes de paix avec Dieu. Une qui est due à la réconciliation parce que la justice divine est satisfaite, et l'autre qui est une relation amicale, voire filiale, entre le Créateur et sa créature. De la même manière que nous avons les quatre évangiles dans le Nouveau Testament, pour bien cerner la personne et l'œuvre du Christ sur terre, le livre du Lévitique décrit plusieurs types d'offrandes qui préfigurent chacune à sa façon une facette de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Je commence à lire le chapitre 3. Si on offre en sacrifice de communion une tête de gros bétail, mâle ou femelle, on offrira un animal sans défaut à l'Éternel. On posera la main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres descendant d'Aaron aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. Versets 1 à 2. Ici encore, il s'agit de réglementer un genre de sacrifice qui existait déjà depuis la plus haute antiquité. Mais ce n'est qu'une réglementation sommaire. Elle sera complétée avec davantage de détails plus loin dans le livre. Les sacrifices d'action de grâce avaient, avec les holocaustes, plusieurs points communs. Victime sans défaut, imposition des mains, immolation et aspersion du sang tout autour de l'autel. La victime pouvait être une tête de gros bétail, un ovin ou une chèvre en fonction des ressources de l'adorateur. Mais ce qui les en distinguait surtout, c'était le repas qui terminait l'acte du sacrifice et auquel participait celui qui présentait l'offrande d'action de grâce, ainsi que tous les membres de sa famille rituellement purs. À cela s'ajoutaient quelques différences secondaires. Pour les sacrifices d'action de grâce, les oiseaux étaient exclus comme offrande trop peu considérable pour servir d'aliment dans le repas. Les femelles, vaches, brebis et chèvres, étaient agréées. Rien n'était stipulé relativement à l'âge de la victime. Au lieu d'être brûlée tout entière, celle-ci était divisée en trois parts. Une certaine graisse seulement était offerte à l'Éternel et par conséquent consumée. C'était la part qui revenait à l'Éternel. La poitrine et la cuisse droite étaient aussi offertes à Dieu, mais elles étaient rendues, redonnées par lui au prêtre sacrificateur dont c'était la part. Tout le reste était consommé par l'adorateur, sa famille et ses amis. C'est le seul sacrifice dont le propriétaire pouvait manger la viande. Ce repas de fête représente la communion en présence de Dieu réconcilié avec l'adorateur. Ce sacrifice d'action de grâce accompagne en général les holocaustes quotidiens, ceux du matin et du soir. Ainsi, lors des grandes festivités prescrites par la loi, des milliers d'animaux étaient offerts et consommés par les fidèles. Au moins, ce qu'on peut dire des Israélites, c'est qu'ils savaient faire la fête. Ceci dit, lorsque l'adorateur avait les moyens d'offrir une tête de gros bétail, le taureau était le premier choix parce qu'il préfigure l'aspect serviteur du Christ. C'était un animal domestiqué et utilisé pour porter des charges et travailler dur dans les champs. Il représentait à cette époque le transport et le commerce. Le taureau était au service de l'homme, ainsi que son ami. Cela ne veut aucunement dire que sur terre, Jésus fut le valet de l'homme. Loin s'en faut. Il n'était pas à ses ordres du tout, mais obéissait à son Père céleste. Je continue le texte. De ce sacrifice de communion, on offrira à l'Éternel, en les consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les flancs, ainsi que le lobe du foie qu'on ôtera avec les rognons. Versets 3 et 4. C'est l'Israélite lui-même qui découpait la bête et offrait au prêtre les morceaux qui composent la part de l'Éternel et que le sacrificateur doit brûler. Il y en a quatre sortes. Tout d'abord, la graisse qui entoure les entrailles, une masse très poisseuse qui s'étend de l'estomac jusqu'aux intestins et les recouvre d'une couche très épaisse, surtout chez les mammifères ruminants. Ensuite, il y a la graisse qui s'attache aux entrailles formant des appendices aux intestins inférieurs. Puis, les deux rognons et la graisse très abondante qui les enveloppe et qui s'étend jusque dans la région ombilicale. Et finalement, le prolongement toujours très gras s'étendant du foie jusqu'au rognon. En les offrant à l'Éternel, on accomplissait la règle qui sera énoncée plus loin et qui dit « Toute graisse appartient à l'Éternel. » Cette graisse, qui tout entière devait être brûlée sur l'autel, ne comprenait pas ce que nous appelons le gras, et qui en fait est la cellulite, c'est-à-dire ce qui est extérieur, immédiatement sous la peau, et qui est intimement lié aux muscles. Certains d'entre nous aimeraient bien s'en débarrasser parce que non seulement c'est lourd et encombrant, mais c'est pas bien beau sur la plage. La graisse intérieure dont parle ici le texte était ce que l'Éternel considérait de meilleur et qui lui était offert et consumé par le feu. C'était ce qu'il y avait de plus central dans l'animal qui était ainsi brûlé. Même si cela peut sembler un peu curieux, symboliquement, on peut considérer que la graisse représente l'âme de l'être humain, cette partie de notre être qui doit être consacrée à Dieu. C'est effectivement bien cette partie de l'homme qui compte pour lui, ce qui est attesté par le passage suivant de l'Ancien Testament que je cite. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Fin de citation. Je continue maintenant le texte. « Les descendants d'Aaron feront brûler la graisse sur l'autel par-dessus l'holocauste déjà placé sur les bûches qui sont sur le feu. Ce sera un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. » Verset 5. Celui qui faisait un sacrifice d'action de grâce y joignait en général un holocauste. Si par contre il voulait l'offrir seul, alors le prêtre lui demandait souvent, pour des raisons pratiques, de l'offrir en même temps que l'holocauste quotidien obligatoire du matin et du soir. Comme tous les autres sacrifices, celui-ci a aussi valeur d'expiation des fautes puisqu'il est dit que son odeur apaisait la colère de l'Éternel. Cette phrase qui revient sans cesse, un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel, peut sembler curieuse à lire et à entendre. Cette répétition incessante a pour but de constamment marteler dans l'esprit de ceux qui veulent bien écouter, que l'ardente colère de Dieu contre moi exige un sacrifice perpétuel. Avec les animaux, cela n'était pas efficace du tout et ça allait bien pour un temps. Par contre, quand on y songe, la valeur rédemptrice de la mort du Christ est éternelle et absolue. Il n'y a rien à y ajouter. Et ça fonctionne, si j'ose me permettre cet abus de langage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption, 365 jours par an. J'aime pas trop ramener le mérite infini du sacrifice de Jésus-Christ à des notions aussi terre à terre, mais au moins, comme ça, c'est facilement compréhensible. Je continue. Si c'est du petit bétail qu'on offre en sacrifice de communion à l'Éternel, on offrira un mâle ou une femelle sans défaut. Si l'on offre un mouton en sacrifice, on l'apportera devant l'Éternel. Versets 6 et 7. L'agneau est sans aucun doute l'animal qui représente le mieux Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsqu'au tout début de son ministère, il fut introduit à la foule par Jean-Baptiste, son précurseur, celui-ci déclara « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Fin de citation. Jésus est comparable à un agneau pour plusieurs raisons. Il est doux, inoffensif et donc facile à sacrifier. Je rappelle un passage du prophète Ésaïe qui est très parlant et que je cite à nouveau. « On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir. » Tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Fin de citation. De plus, un agneau est dépendant du berger pour survivre, comme Christ qui s'en remettait à son Père en toutes choses. Finalement, dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, Jésus apparaît sous la forme d'un agneau à deux reprises, une fois comme victime, ce qui correspond à sa première venue sur terre, et la deuxième fois comme conquérant, ce qui sera le cas lorsqu'il reviendra prendre possession de son royaume par la force. Je cite les deux textes. « Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Il criait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » Fin de citation. Le tout premier sacrifice offert par l'homme à son Créateur fut celui d'Abel qui offrit un agneau de son troupeau. Bien qu'aucun texte ne le précise, lorsque Dieu habilla Adam et Ève de peaux d'animaux, il y a de fortes chances que celles-ci provenaient d'agneaux. Bien que cet animal ordinairement d'un an fût le premier choix du menu bétail, il pouvait être remplacé par un bélier. Ce sacrifice ressemble en tout au précédent, sauf en ce qui est dit un peu plus loin de la queue. Les moutons de Syrie et d'Afrique ont une queue très grosse et tout enveloppée d'une excroissance graisseuse qui, chez certaines espèces, pèse jusqu'à 8 kilos, voire même plus, de sorte que quelquefois on la place sur une planchette munie de roues qui ressemble à un petit chariot et qui est attelée à l'animal. Dans les sacrifices consumés par le feu, cette queue très grasse est considérée comme le meilleur morceau pour l'Éternel. Et sur ces paroles, je finis pour aujourd'hui.